Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors justement, pour vous chouchouter, pour vous informer, il est à mes côtés bien sûr dans ce studio tous les jours, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui dans notre grand dossier du jour, à l'occasion de la Journée mondiale du cœur, nous allons faire un focus sur la santé du cœur de la moitié de la population. Une spéciale cœur des femmes, vous allez voir que cet organe au féminin a des spécificités et que pour en prendre soin, il y a notamment trois périodes de la vie des femmes qui sont particulièrement sensibles. Pour en parler dans le détail, une grande spécialiste du sujet, nous recevrons le professeur Claire Mounier-Veillé. Elle est chef du service médecine vasculaire et hypertension au CHRU de Lille et cofondatrice de la fondation Agir pour le cœur des femmes. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Nous parlerons aujourd'hui de l'otite. Vous savez tous à peu près ce que c'est que ce bobo de l'oreille qui touche plus volontiers les enfants. Mais comment attrape-t-on une otite? Est-ce contagieux? Et surtout, comment ça soigne? Nous ferons le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, nous verrons comment protéger les adolescents de l'exposition au porno.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par la première question, c'est celle de Karim.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai été en contact avec un ami ce week-end qui lui-même vient d'apprendre que son collègue était en fait un cas contact. La femme de son collègue est positive. Je ne sais pas exactement quel est le lien avec moi, vu que je suis un petit peu loin de la chaîne, mais est-ce que je dois quand même me faire tester? Merci beaucoup.
Bon Jimmy, il faut dire ce qui est, c'est un casse-tête. Hein. Je suis cas contact dans cas contact, dans cas contact. Oui, mais... C'est l'ami d'un ami de la femme d'un ami. Est-ce que dans ce cas-là, celui qui l'a décrit, est-ce qu'il est donc cas contact? Est-ce qu'il doit se faire tester?
Non, le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'avait dit, les cas contacts des cas contacts ne sont pas des cas contacts.
Donc
là,
clair.
On est sur un bout de chaîne. Donc en pratique, un cas contact, c'est tous les membres du foyer. C'est toute personne que vous allez voir en face à face dans une pièce close, à moins d'un mètre, quelle que soit la durée du contact.
D'accord.
Ça veut dire qu'un simple repas peut suffire, une conversation, une accolade, vous êtes un cas contact. Et puis, si vous passez 15 minutes dans une même pièce, même sans contact, eh bien dans ces cas-là, vous faites partie des personnes qui vont vous faire tester. Et puis, il y a une autre façon de savoir si vous êtes un cas contact. Alors, ce n'est pas populaire en ce moment, mais c'est l'application Stop Covid. Mm-hmm. Je pense qu'on l'a enterré bien trop tôt.
Vous l'avez téléchargée, je crois.
Je l'ai téléchargée, ouais. Et c'est vrai qu'on
elle
nous dit...
Elle est sur mon téléphone aussi.
Exactement, ça ne coûte pas cher, c'est gratuit même d'ailleurs.
Bah oui.
Effectivement, le Premier ministre a dit qu'il ne l'avait pas. Et alors, ce n'est pas notre problème. Je pense qu'on a besoin d'essayer de
on
contrôler
le droit de faire
virus.
Mieux que le Premier ministre.
Exactement. Tout d'un coup, quand le ministre nous dit de faire quelque chose, on n'est pas des moutons. Et puis tout d'un coup, on dit qu'il ne faudrait pas l'écouter. Enfin, on est dans une cacophonie totale. Et donc, si jamais vous êtes dans un bar, vous êtes dans un restaurant, puisqu'il faut continuer de vivre dans une zone où le virus circule, si jamais vous êtes en contact avec quelqu'un de malade, je pense que vous aimeriez le savoir. Mmh. Et je pense que vous aimeriez être appelé à être testé pour protéger aussi les autres. Donc, Stop Covid va peut-être avoir un second élan qui vous permettra de savoir si jamais vous avez été en contact avec le virus ou pas.
Mais si donc il faut se faire tester, puisqu'on parle des tests, juste un mot Jimmy, peut-être sur les tests salivaires, ils sont vraiment arrivés, pas arrivés, on en est où?
Alors,
en fait
il faut reconnaître, on a un problème de test. Mais pourquoi on a un problème de test? Parce qu'on ne porte pas de masque et qu'on ne respecte pas les distances, qu'on continue de faire pas n'importe quoi, mais de vivre comme si le virus n'existait pas. Donc si jamais on était un peu exemplaire, eh bien on n'aurait pas besoin de se faire tester. Donc effectivement, il y a des problèmes, mais ces tests salivaires, on espère que les médecins généralistes, puisqu'ils ont été les oubliés de la première vague, puisqu'on n'avait pas de masque, pas de test, pourront, dans les cabinets peut-être, faire un test, puisqu'il y a beaucoup plus de médecins que de laboratoires.
Vous aimeriez bien les avoir en consultation.
Bien les avoir, ouais. Pour avoir un résultat en 30 minutes, éviter l'angoisse des parents lorsqu'un enfant est malade. C'est une semaine de déscolarisation, une semaine d'arrêt maladie pour le parent. Eh bien, j'espère qu'ils vont enfin arriver. Ça devrait arriver pour début octobre. Mais c'est comme tout.
Croisons les doigts.
Exactement.
Merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est la question de Julien. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. Je vous ai entendu parler des anti-inflammatoires, alors stéroïdiens, non stéroïdiens. Mais en fait, je ne comprends pas très bien la différence et je voudrais savoir lesquels on doit utiliser dans quelles circonstances. Voilà, merci beaucoup pour votre réponse.
Bon, une question un peu de technique, on va dire, en tout cas de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est vrai qu'il y a les stéroïdiens et les non stéroïdiens. Bon, on va parler peut-être des plus courants, enfin, ceux dont on entend peut-être plus parler, les non stéroïdiens.
Non stéroïdiens,
c'est quoi?
Alors, c'est une famille de médicaments qui sert à traiter la douleur, la température et l'inflammation. On le connaît, c'est disponible sans ordonnance avec de l'ibuprofène, par exemple. Mais vous avez d'autres qui ont une action beaucoup plus anti-inflammatoire et qu'on va utiliser notamment en rhumatologie. Lorsque vous avez des maladies rhumatologiques inflammatoires ou une tendinite, ça peut vous aider. Si jamais vous êtes migraineux, ça peut vous aider. Ou si jamais vous avez une colique néphrétique, c'est les grandes indications. Et puis, il y a d'autres pathologies où, au contraire, il ne faut surtout pas les utiliser car ils peuvent avoir des effets secondaires.
Vous dites donc, notamment, vous avez parlé de la fièvre, mais je crois qu'en termes de fièvre ou de douleur, vaut mieux quand même toujours privilégier le paracétamol.
Exactement, puisqu'un anti-inflammatoire va baisser un petit peu les défenses immunitaires. Lorsque vous avez, par exemple, une infection, vous allez avoir les globules blancs qui vont se rendre sur le site de l'infection pour créer une rougeur, vous alerter, vous dire il se passe quelque chose, le corps se défend. Sauf que si vous prenez des anti-inflammatoires avec une infection, eh bien les globules blancs ne vont pas pouvoir arriver au site de l'infection et vous risquez de faire des surinfections. Donc si jamais vous avez de la température, n'importe quelle infection, privilégiez du paracétamol. C'est une cause de mortalité, les anti-inflammatoires, aux États-Unis, puisqu'ils consomment ça un peu comme des bonbons.
Juste un mot alors du coup sur les autres, les anti-inflammatoires qui sont stéroïdiens, c'est quoi la différence et c'est quoi comme médicament?
Alors c'est des corticoïdes, la cortisone, c'est la cortisone de synthèse qui est utilisée dans de nombreuses pathologies, un asthme qui est mal équilibré, des maladies immunologiques, des maladies hématologiques qui en règle générale de toute façon sont prescrits uniquement par le médecin, qui peuvent aussi avoir des effets secondaires sur le long terme. Donc il faut être prudent, mais encore une fois...
Pour les os, si on en prend pendant trop longtemps, on en avait parlé dans cette émission quand on avait parlé d'ostéoporose.
Exactement, au niveau de la hanche. Donc soyez prudent et respectez à la fois la posologie et la durée que le médecin pourra vous prescrire, puisqu'ils peuvent entraîner de nombreux effets secondaires et jamais d'automédication.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions. Alors si vous aussi, comme Julien qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invitée pour le dossier du jour. C'est la professeure et cardiologue Claire Mounier-Veillé. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du cœur, elle va venir nous parler en détail du cœur des femmes, un cœur au féminin qui a des spécificités et qu'on néglige encore trop en 2020. On va parler femmes dans son rendez-vous, mais je vous assure, ça devrait intéresser aussi les hommes, c'est certain. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Claire Mounier-Veillé. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Alors vous êtes chef de service de médecine vasculaire et hypertension au CHRU de Lille. Et vous êtes aussi la cofondatrice de la fondation Agir pour le cœur des femmes. Et c'est justement notre thème du jour, le cœur au féminin. D'abord, est-ce que ce cœur, est-ce que mon cœur, il est différent de celui du docteur Jimmy Mohamed? Nos cœurs, nous deux d'ailleurs, hein, Claire. Est-ce que physiologiquement, le cœur de la femme, il est vraiment différent?
Alors, le cœur de la femme est plus petit. Il fait 300 grammes, entre 200 et 300 grammes. Donc, par exemple, on peut facilement greffer un cœur d'homme à une femme, mais greffer un cœur de femme à un homme, c'est plus compliqué au moment du réveil. Parce qu'il se contracte, il bat plus vite. Il est très sensible également à l'innervation qu'on appelle le système nerveux sympathique, qui n'est pas sympathique du tout, parce qu'il accélère la fréquence cardiaque. Il est également... bourré de récepteurs aux œstrogènes, donc il va être très sensible aux fluctuations du cycle hormonal au moment des règles, et puis également au moment de la grossesse, et puis lorsqu'il n'y en a plus d'hormones, au moment de la ménopause.
Et du coup, ce cœur, il peut être aussi plus sensible au stress qu'une femme peut subir ou connaître au quotidien?
Tout à fait, le cœur est très sensible au stress, parce qu'il y a également beaucoup de récepteurs aux hormones du stress, qu'on appelle les catécholamines, et la forme la plus cataclysmique, c'est le syndrome de Takotsubo, le syndrome du cœur brisé, où le cœur est totalement paralysé par des hormones suite à un gros stress.
C'est plus féminin ce problème-là, du cœur brisé?
Oui, c'est 8 femmes pour 2 hommes et plutôt des femmes ménopausées également.
D'accord, voilà. Oui, donc pourtant à savoir. Je crois que l'épidémie de coronavirus, elle n'a pas arrangé les choses pour les femmes. Justement, à la sortie du confinement, vous aviez alerté ce sujet des femmes et de leur santé cardiovasculaire qui avait été mise à mal pendant cette période-là. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, tout à fait. Alors, c'était au moment du lancement du fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes que j'ai cofondé avec Thierry Drillon. Donc on avait 3 missions, les 3 A du cœur, alerter, anticiper, agir. Et effectivement, là, on a profité de la création de la fondation pour alerter le fait que les femmes restaient chez elles, avaient annulé leur rendez-vous de consultation, y compris les consultations gynéco d'ailleurs. Et donc, elles avaient des symptômes à la maison qu'elles mettaient sur le compte du stress, sur le compte de la fatigue, sur le compte du confinement.
Mais certaines avec des vrais problèmes cardiaques, vous avez dû récupérer dans des salles d'état?
Alors, on a eu des femmes, effectivement, qui ont reculé l'appel du 15. Donc on a eu, là, je peux vous le dire maintenant, cet été... pas mal de femmes qui étaient en insuffisance cardiaque quand ce cœur qui était un muscle n'est plus capable de se contracter parce qu'elles avaient eu un infarctus du myocarde, donc la coronaire qui se bouche, vieillie, passée inaperçue et découvert au stade de l'insuffisance cardiaque. Ah oui. Donc ça, ça a fait des patientes qui ont mis beaucoup, beaucoup de temps à sortir cet été suite à cet infarctus pas pris en charge à temps.
Justement, parce que je crois que les femmes font un peu plus d'infarctus que les hommes. Et je crois qu'il y a quelque chose encore plus d'alarmant, c'est que les hommes en font moins depuis 20-30 dernières années, alors que les infarctus chez les femmes n'ont pas forcément régressé, puisqu'elles ont adopté les mêmes modes de vie que les hommes.
Et donc, alors, forcément... je pondère un tout petit peu, c'est-à-dire qu'en valeur absolue, il y a toujours plus d'hommes que de femmes qui font des infarctus. Mais, il y a toujours un mais, il y a plus 5% par an d'hospitalisation de femmes de moins de 55 ans pour infarctus de myocarde.
Ah oui, jeune en plus. Parce
la
que,
coronaire ouais. qui se bouche, oui. Et c'est ça qui nous préoccupe. Et on peut aussi expliquer ce chiffre par le fait que là, on dose aussi une petite protéine dans le sang qu'on appelle la troponine ultrasensible, qui vient du muscle cardiaque quand il est malade, quand il n'est pas vascularisé. Et ça, ça nous a permis de diagnostiquer des formes d'infarctus qui ne sont pas du tout classiques, qui sont totalement atypiques et qui sont plus fréquents chez la femme. Ça explique pourquoi il y a plus d'infarctus chez la femme aujourd'hui.
C'est quoi le profil de cette femme-là qui fait un infarctus avant 55 ans? Il est différent de la femme qui va faire un infarctus sur le plus tard, on va dire
ouais. Oui, il y a des portraits robots de femmes. Avant 50 ans, ça va être une femme... très stressée, très fumeuse. Normalement, elle a un gros passé de tabac. Plutôt précaire. Vous avez également des femmes de haut niveau socio-économique qui en font. Mais c'est vraiment le tabac en numéro un, le stress, la précarité et la sédentarité. Et c'est vraiment là-dessus qu'on alerte avec Agir.
Et je crois qu'il faut faire aussi attention aux patientes qui sont migraineuses.
Ouais. Alors, effectivement, donc on a dit que le cœur des femmes était plus innervé. Les artères du cœur des femmes, les autoroutes du cœur, j'appelle, c'est les coronaires. Eh bien, effectivement, elles sont également plus innervées, elles se spasment plus facilement. Si ces femmes fument en plus, alors les femmes migraineuses, elles ont aussi les mains qui blanchissent au froid. Hein, et donc, elles ont tendance à avoir des artères qui se referment comme un élastique. Et en plus, si vous rajoutez une petite dose de stress, plus une cigarette, hein, le cas typique, vous sortez, vous vous engueulez avec votre patron, vous descendez de votre bureau, vous allez fumer votre cigarette pour vous détendre. Et là, l'accès de colère, vous libérez des hormones, ça stresse. Vous fumez la cigarette, il fait froid, ça stresse, et donc vous faites le cocktail de l'infarctus du myocarde.
Donc avoir les mains froides, blanches et froides, c'est un signe c'est de un facteur signe... de risque cardiovasculaire, enfin de cœur plus fragile.
C'est un signe que l'artère a tendance à se refermer sur elle-même, elle se spasme, hein, comme un élastique. En fait, vous tendez l'élastique, il est large, il se referme sur lui-même, c'est le spasme.
Donc
fait.
Les femmes qui ont ça, faut qu'elles fassent attention, quoi.
C'est aussi un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral de la femme, donc l'accident dans l'artère qui se bouge dans le cerveau. Ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est la contraception avec œstrogène de synthèse, plus le tabac, plus le stress.
On va y revenir. Merci professeur Claire Mounier-Veillé. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, professeur Claire Mounier-Veillé. Je rappelle que vous êtes chef de service médecine vasculaire et hypertension au CHRU de Lille et vous êtes également cofondatrice de la fondation Agir pour le cœur des femmes. Alors professeur Mounier-Veillé, vous dites qu'il y a trois périodes qui comptent finalement dans la vie des femmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se surveiller toute la vie, mais trois périodes en tout cas d'un point de vue cardiovasculaire. Les premières règles, la grossesse, la ménopause. On va commencer par la première. En quoi l'âge des premières règles, finalement, c'est vrai que pour le coup, on n'imaginait pas du tout, ça peut avoir une importance sur notre risque métabolique ou cardiaque.
Alors, l'âge des premières règles, c'est soit avant 11 ans, parce que l'âge moyen en France, c'est 13 ans, soit après 15 ans.
D'accord, soit on les a trop tôt, soit trop tard.
Mais ce risque-là, il ne va pas se manifester tout de suite. C'est un bas bruit, il va se manifester vers la quarantaine, où effectivement, les femmes auront plutôt une facilité à grossir et à prendre de ce que j'appelle la bouée abdominale, donc une obésité centrale abdominale.
Et ça, ce risque-là, c'est plus celles qui les ont eues soit trop jeunes, soit plus tard. Quoi,
oui,
c'est
ça. Et puis vous avez également, à cette période-là, où entre 11 et 18 ans, le syndrome des ovaires polykystiques.
Et l'endométriose aussi.
Ouais, et l'endométriose, et ces trois situations cliniques-là vraiment spécifiques de la femme, sont associées à un surrisque métabolique, puis vasculaire, quand il n'y aura plus de règles.
Une autre période de la vie d'une femme, c'est la prise de contraception. Est-ce qu'il y a des choses à savoir lorsqu'on doit choisir une contraception par rapport au cœur ?
Bah oui, tout à fait. Donc avec, d'ailleurs, c'est sur le site d'Agir pour le cœur des femmes, c'est les feux rouges de la contraception que doivent connaître absolument nos auditrices. C'est être migraineuse, on en a parlé tout à l'heure. C'est avoir un antécédent de phlébite, donc de caillots dans la veine ou dans l'artère pulmonaire, phlébite embolie pulmonaire, soi-même ou au premier degré. C'est avoir déjà une maladie cardiaque connue. C'est être diabétique.
On oublie la contraception avec œstrogène. Hein, c'est
là,
ça.
Voilà. Donc en fait, la première prescription de contraception avec œstrogène, il doit y avoir une enquête policière et surtout, il faut que les mamans disent à leurs filles les antécédents familiaux. Ça, c'est super important. Maintenant, si ce n'est pas le cas ou si la jeune fille veut avoir une contraception sans en parler à ses parents parce que ça lui appartient, eh bien, on doit lui donner un progestatif pur, un micro-progestatif pur, en attendant de faire l'enquête.
Sans œstrogène, quoi.
Une pilule ou après, il y a d'autres, il y a l'implanon. Mais en tout cas, les plannings familiaux, Il faut, c'est une cible à former, mais également on s'appuie sur les pharmaciens. Mmh. Parce que les pharmaciens, quand ils vont délivrer...
C'est vrai qu'on pense pas à risque cardiovasculaire et pilule, hein, mais c'est
important. Et c'est super important, parce qu'une des premières causes d'infarctus ou d'AVC de la jeune femme, c'est quand même la pilule, et surtout elle fume. Généralement, elle fume aussi. Hein.
Autre période cruciale dans la vie d'une femme, c'est la grossesse. Et là, on ne pense pas forcément à son cœur. On se dit, c'est un événement heureux. Pourtant, il y a quelques recommandations.
Oui, alors déjà, la grossesse, c'est un marathon. C'est comme si vous couriez jour et nuit pendant 8 à 9 mois.
Et oui.
Imaginez-vous
faire
ça.
Jimmy, on vous le dit.
Donc ça, c'est pas possible. Donc, nous, les femmes, on est courageuses.
Fois, vous, hein, c'est faux.
Et
nous sommes courageuses.
Poids,
non, mais sérieusement, donc, pendant la grossesse, le cœur va mouliner deux fois plus de sang pendant 9 mois. Il va battre plus vite pendant 9 mois. Donc on comprend que c'est une épreuve d'effort qui va fatiguer un cœur, qui s'il n'est pas en bonne santé à la base, ça peut précipiter une maladie cardiaque ou une maladie vasculaire, parce que les vaisseaux se dilatent aussi. Donc en pratique, il y a trois situations. C'est soit je suis une dame cardiaque connue, c'est-à-dire j'ai été opérée dans l'enfance, ou je sais que j'ai une maladie des valves cardiaques ou de l'aorte.
On ne se lance pas dans un projet bébé sans consulter.
On ne fait pas un bébé toute seule, on en parle à son médecin, on en parle à son gynéco, on prévoit, c'est la consultation préconceptionnelle. On arrête les médicaments qui sont contre-indiqué pendant la grossesse quand c'est possible. Mmh. Et là, on fait un symposium cardio-obstétrical et on définit si c'est feu vert, elle peut y aller, feu orange, il faut réajuster, feu rouge, elle ne peut pas être enceinte. Il y a quelques maladies cardiaques où on ne peut pas être enceinte malheureusement. Mmh. Après, c'est une situation où la femme est une dame hypertendue, diabétique, fumeuse.
Avant grossesse, bien sûr.
Oui, ou elle a 40 ans, parce qu'elle refait un bébé avec un nouveau mari, on va dire. Ces femmes-là, elles sont à plus haut risque de mal fabriquer leur placenta. Et quand ce placenta est de mauvaise qualité, ça peut donner de l'hypertension, ça peut donner des complications cérébrales cardiaques vasculaires et rénales. Deuxième cas de figure. Ou encore, ça peut révéler une maladie cardiaque, elle ne se savait pas malade du cœur. Ça arrive. Hein. Et la troisième situation, c'est une dame, il n'y a pas d'autre situation. En fait, si, c'est après l'accouchement, je dis des bêtises, elle accouche. Eh bien, ces femmes-là qui auront fait un accident cardiovasculaire pendant la grossesse...
Qui ont eu un diabète, qui ont eu une hypertension,
qui ont découvert une maladie. Il y a d'ailleurs une maladie spécifique de la grossesse, c'est la cardiomyopathie du péripartum. Eh bien, ces femmes-là, on leur fait un bilan à 3 mois de grossesse environ, et on va les suivre régulièrement.
Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avoir un diabète gestationnel, donc de la grossesse ou même une hypertension pendant la grossesse, on a l'impression souvent que ça s'arrête quand on a eu le bébé, il n'y a plus cette maladie-là, mais on est à risque pour toute la vie, en fait.
Oui, alors il y a une femme sur deux qui reste diabétique, malheureusement, après la grossesse. Alors, c'est souvent des grossesses tardives ou des femmes qui étaient déjà en surpoids avant d'être enceinte. Ce n'est pas n'importe quelle femme non plus. Ou bien c'est les femmes qui vont redevenir diabétiques au moment de la ménopause. Donc c'est un facteur de risque cardio-métabolique indépendant. Ouais.
Et celles, par exemple, qui vont avoir notamment une pré-éclampsie, une des complications de la grossesse, on les invite à du coup se faire suivre puisqu'elles peuvent avoir de l'hypertension résiduelle. La pré-éclampsie s'améliore avec l'accouchement, mais derrière ça, elles sont encore à risque. Et pourtant, souvent les femmes, quand elles ont 25, 30 ans, elles s'occupent de leur enfant, elles vont négliger leur santé, ne plus aller voir le généraliste, alors que peut-être il faudrait anticiper et se faire contrôler. Peut-être que tout ira bien, mais...
Vous avez tout à fait raison. Alors déjà, là aussi, c'est une sur deux qui va rester hypertendue, notamment si cet accident grave de la grossesse, la pré-éclampsie survient avant la 32e semaine d'aménorrhée. Donc ça, plus c'est tôt, plus c'est à risque. Ici, ça récidive. Et ensuite, on a une thèse de médecine la semaine prochaine. Et les femmes qui ont fait une pré-éclampsie, en moyenne, font un bilan dans les 5 à 10 ans après l'accouchement. Donc vous voyez.
Oui.
Donc en fait, là encore, agir pour le cœur des femmes. Sa mission, c'est d'anticiper et d'agir. C'est-à-dire, on alerte les femmes. Et l'intérêt aussi de cette fondation, c'est de demander aux femmes de témoigner elles-mêmes. Donc vous avez des témoignages de femmes et elles vous racontent leur histoire. Et ça, ça incite à se dépister.
Professeur Monivelier, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous, reviens dans un instant. On scrute le cœur des femmes aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale du cœur. Trois périodes particulièrement sensibles pour nous les femmes. Les premières règles, la grossesse, on vient d'en parler. Et juste après, on fait le point sur le troisième, les risques cardiovasculaires à l'approche de la ménopause. On vous en dit plus juste après. Alors surtout, restez sur Europe 1.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, professeur Claire Mounier-Veillé. Vous êtes chef de service médecine vasculaire et hypertension au CHRU de Lille et cofondatrice de la fondation Agir pour le cœur des femmes. Alors avec vous aujourd'hui, on fait un point très complet justement sur la santé cardiaque des femmes, la santé cardiaque au féminin. Et justement, on va peut-être préciser une petite chose importante quand même avant de parler de la ménopause, notre troisième période critique. Les femmes, quand elles font un infarctus, ils ne ressemblent pas forcément à un infarctus au masculin. Expliquez-nous.
Alors, effectivement, les femmes, dans un cas sur deux, vont présenter des symptômes très atypiques parce que la maladie est atypique. Ce n'est pas les mêmes lésions coronaires chez une femme de moins de 60 ans que chez un homme. C'est-à-dire que c'est les petites plaques molles très sournoises qui vont s'ulcérer comme quand on se brûle, on a une ampoule, une cloque. ça se déchire. Ben la plaque d'athérome de la femme, c'est ça, c'est une plaque molle et pas calcifiée.
Donc alors on la voit pas. Elle est dure chez l'homme, mais c'est pas.
Voilà,
sa bouche.
Elle va se calcifier 5 à 6 ans après l'arrêt des règles. Donc celle-là, c'est une petite plaque molle, donc qui ne bouge pas l'artère. Et donc si on fait une épreuve d'effort à ces femmes-là, ben elles ont rien. Puis 8 jours après, elles se mettent en colère, elles fument, elles rompent la plaque, les petites plaquettes font un caillot sanguin, ça bouche l'artère. Donc les symptômes, c'est larvé. Un essoufflement pour des efforts, mais ces essoufflements deviennent de plus en plus fréquents. Une fatigabilité à l'effort. Elles ont également des douleurs entre les omoplates, des douleurs au niveau du creux de l'estomac. Parce que c'est souvent la coronaire qui vascularise le plancher du cœur, ce qu'on appelle la coronaire droite, ou la circonflexe, une autre artère qui fait plutôt la paroi latérale du plancher du cœur, qui sont touchées plus que les autres artères, comme on appelle l'interventriculaire antérieure.
D'autres symptômes très différents. Ouais.
Du coup, est-ce qu'il y a un retard diagnostique? Est-ce que finalement, on se trompe, nous aussi médecins? Parce que parfois, on peut ne pas croire la patiente en disant « c'est le stress, c'est la fatigue, reposez-vous, ça va passer ». Est-ce qu'on commet des erreurs, du coup?
Alors, pour ne pas commettre d'erreurs, c'est comme pour l'embolie pulmonaire, il faut se dire « une dame a des symptômes alors qu'elle a des facteurs de risque ». Ce n'est pas non plus n'importe quelle femme qui va faire son infarctus. C'est la fumeuse, c'est la stressée, celle qui prend sa contraception, qui est migraineuse. Bon, la diabétique. Ces femmes-là, elles ont ces symptômes-là. Pour moi, c'est une coronarienne en puissance. C'est-à-dire, je pourrais dire à la dame, c'est dans votre tête une fois que j'aurai fait mon bilan. Mmh. Et là, on est sûr de ne pas se tromper. Parce que, effectivement, vu que les symptômes sont bâtards, on peut penser que c'est un ulcère à l'estomac. On a des errances diagnostiques, comme on dit. On les envoie chez le gastro, elles vont voir le rhumato, elles prennent des anti-inflammatoires, comme vous disiez tout à l'heure, parce qu'elles ont mal dans l'épaule, alors que c'est un authentique maladie coronaire, mais on prend ça pour un rhumatisme de l'épaule. Et finalement, ces femmes-là, eh bien, il faut être systématique, déjà dans l'interrogatoire, et il faut leur apprendre elles-mêmes à être systématiques quand elles vont remplir leur dossier médical. Ça qui est important.
Professeur Monivelli, on va venir à la troisième période très importante, la ménopause. Alors pourquoi, quand nos hormones féminines justement sont en chute libre, eh bien, c'est le chamboulement, la révolution dans nos artères?
Alors, ça commence bien avant l'arrêt des règles. C'est quand nos cycles commencent à se rallonger ou
la
à se raccourcir.
La périménopause,
c'est une vraie saloperie. Si je peux m'exprimer ainsi,
elle
c'est
me
pas
dit
bien.
Elle me dit d'un air vraiment dégoûté, on a compris que c'était pas chouette. Hein.
C'est vécu. Donc en fait, sournoisement, on va prendre 30 à 40 grammes par mois si on ne fait pas attention à son alimentation. En clair, notre corps ne sait plus éliminer les calories correctement.
Ça, on a quel âge,
la chaudière,
à peu près
vers 42, 43 ans, ça commence.
Aïe.
Donc dans ces cas-là, soit on mange moins, soit on bouge plus. Il n'y a pas, de solution
miracle. Hein, la bonne nouvelle, c'est
donc il faut bouger en fait régulièrement tout le temps. Donc effectivement, cette périménopause, on va grossir progressivement, on va moins bien métaboliser le sucre et les graisses. Donc on a ce qu'on appelle le syndrome métabolique de la périménopause qui va précéder l'atteinte des artères.
Et on va prendre du ventre, il ne faut pas avoir trop de ventre, hein, je crois.
Alors le ventre, sincèrement, quand vous faites régulièrement la marche, c'est bien, mais vous ne transpirez pas, il faut faire un sport qui fait transpirer, comme le vélo d'appartement.
Du coup, ça veut dire que cette période doit se préparer puisqu'elle a un impact sur sur l'artère des femmes.
Alors, elle se prépare et également dans notre alimentation, notre rein devient également très paresseux pour éliminer le sel. Donc, il faut manger moins salé. Parce que si vous mangez salé, vous gardez de l'eau, vous prenez du poids et ça favorise la prise de poids abdominale. Donc, effectivement, ça se prépare. Il faut expliquer aux femmes que leur hygiène de vie, c'est le médicament numéro un qui va faire en sorte qu'elles ne prendront pas trop de poids, qu'elles vont limiter la prise de poids, mais si elles l'ont, ça se perd aussi. Hein. Faut pas qu'une femme qui a pris 10-15 kilos au moment de l'arrêt des règles se dise c'est foutu.
Non,
on peut revenir en arrière.
Et est-ce que prendre un traitement hormonal justement contre la ménopause, c'est efficace sur le plan cardiovasculaire pour protéger son cœur?
Alors, le traitement hormonal, on a revu nos copies avec le consensus de la Société française d'hypertension. Parce qu'en fait, il y avait la chasse aux sorcières depuis l'étude il y a une vingtaine d'années.
Sein,
on disait, voilà, risque d'infarctus, mais c'était un traitement pris par voie orale, par la bouche, et chez des femmes qui étaient déjà ménopausées et qui étaient en surpoids diabétique, qui avaient déjà des plaques.
D'accord.
Une jeune femme ménopausée, moi je m'estime encore jeune, une jeune femme ménopausée qui a moins de 60 ans, dont la ménopause date de moins de 5 ans, qui est très symptomatique, hein, faut qu'elle ait des bouffées de chaleur, des douleurs articulaires, des troubles du sommeil, irritabilité, tout ça, qui est voilà, on va lui proposer le traitement hormonal, mais on va faire le double label cardio-gynéco. C'est-à-dire que le gynéco vérifie qu'il n'y a pas de contre-indication gynécologique, cancer, et le cardio va vérifier qu'il n'y ait pas de plaque d'athérome qui contre-indique, mais être hypertendu, être diabétique non compliqué, avoir du cholestérol contrôlé, ce n'est pas une contre-indication au THM.
Merci beaucoup, voilà. Claire Monivelli, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On n'a plus de temps, malheureusement. On fera une autre émission. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le cœur des femmes. Et pour ceux qui voudraient justement plus d'informations, je vous incite à aller jeter un coup d'œil sur le site suivant, www.agirpourlecoeurdesfemmes.com. Merci encore, Claire.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Nous parlerons aujourd'hui de l'otite. Vous savez tous à peu près ce que c'est que ce bobo de l'oreille qui touche surtout les enfants. Mais alors, comment attrape-t-on une otite? Est-ce contagieux? Et surtout, comment ça se traite? Nous ferons le point. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux, vous l'entendez, d'être avec vous cet après-midi. Et nous allons passer à présent à notre séquence, les bobos du quotidien. Donc aujourd'hui, Jimmy, on va parler de l'otite. Savez-vous, alors vous, vous savez, je m'adresse plutôt à vous, les auditeurs, évidemment, ce qu'est précisément une otite. Peut-être que vos enfants en ont déjà eu, d'ailleurs. Pourquoi les jeunes, finalement, sont plus touchés que nous, les adultes? Est-ce que c'est contagieux, une otite? Et surtout, comment ça se traite? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Ça, c'est dans les oreilles, mais alors attends. Une otite, ça fait très très mal.
Une otite, c'est une douleur à l'oreille, avec le froid.
Une inflammation du tympan, c'est ça. Ça fait hyper mal. Moi, j'étais très sensible aux otites quand j'étais petite. Et tu peux pas mettre la tête sous l'eau pour aller à la piscine, etc. C'était hyper chiant quand j'étais au cottage. Agglomération ouais. Bah, de pu ou de quelque chose dans l'oreille qui bloque, en fait.
Pour moi, l'otite, ça s'attrape ouais, avec l'eau ou des petites poussières qui peuvent se loger dans le tympan.
C'est bloqué et ça brûle et ça remonte dans les narines dans les parce narines que tout est lié.
Des antibiotiques. Peut-être que tu as des gouttes à te mettre dans les oreilles en plus pour fluidifier et éviter les bouchons au niveau des oreilles.
Mettre des petites gougouttes, je pense. C'est le plus efficace.
On met des gouttes dans les oreilles et ça nettoie et ça désinfecte.
Alors, Jimmy, on va donc nous expliquer tout de suite ce qui se passe finalement, physiologiquement, quand on a une otite. Qu'est-ce qui se passe dans ce conduit auditif, c'est là ?
L'otite, c'est l'infection au niveau de l'oreille. Il n'y a pas une otite, mais des otites. Vous avez l'otite moyenne aiguë qui correspond à l'inflammation ou l'infection du tympan. Mais vous pouvez avoir une otite externe, c'est-à-dire le conduit auditif, le petit tunnel qui va mener à l'oreille. Et puis, vous pouvez avoir une forme d'otite chronique qu'on appelle l'otite séreuse, qui fait que lorsqu'un enfant est constamment enrhumé, eh bien, il y a un peu de liquide derrière l'oreille, pas suffisamment.
Ça fuit un peu de l'autre côté. Non, c'est pas ça. Ça fuit entre le nez, les oreilles, tout ça.
Exactement, ça communique. Ouais. Et donc, il n'aura pas forcément de douleur, mais il va avoir un peu d'inflammation chronique qu'il faudra dépister chez le médecin.
Est-ce qu'une otite, c'est toujours que d'un côté ou ça peut toucher les deux oreilles?
C'est rarement bilatéral. Ça peut, effectivement, lorsque l'otite n'a pas été traitée ou lorsque parfois on ne savait pas que l'enfant avait une otite parce qu'on peut passer à côté, eh bien, on peut avoir des deux côtés, même si en règle générale, c'est souvent une oreille qui est touchée. Et ça peut être le cas un peu plus chez les tout petits, puisqu'ils ont une particularité qui fait qu'ils sont plus sensibles.
Et deux questions, comme ça je vais vous fusiller de questions. Est-ce que c'est donc bactérien, viral? Est-ce que c'est contagieux?
Alors, l'otite survient dans un contexte viral. L'enfant a une rhinopharyngite, il a le nez enrhumé, il tousse. Et puis les sécrétions vont arriver au niveau de l'oreille et il va faire une otite qu'il ne faudra pas systématiquement traiter avec des antibiotiques, mais qui va se surinfecter d'une infection bactérienne. Donc elle va devenir bactérienne. Et puis, ce n'est pas contagieux. En revanche, le rhume qui précède l'otite, lui, est contagieux. Donc attention, le nez qui coule va donner le nez qui coule dans la fratrie.
Et donc on peut avoir plusieurs enfants avec
exactement,
des otites à la fin.
Exactement. D'accord. Et à la fin, ça peut conduire à l'otite.
Comment on reconnaît, d'ailleurs, ça fait que mal à l'oreille ou il y a d'autres symptômes? Vous disiez peut-être le rhume avant, mais est-ce que pendant l'otite, il y a d'autres symptômes?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez les tout petits, une vraie otite se manifeste avec la température.
Ah, quand même.
Souvent, un enfant, par exemple, de 6 mois, ne sait pas localiser la douleur. Donc les enfants, les parents me disent souvent, oh, il touche son oreille. Toucher son oreille n'est pas un signe d'otite. Ça peut juste dire qu'il est fatigué, c'est un tic, qu'il s'amuse avec ses oreilles. En revanche, c'est un enfant qui va pleurer avec de la fièvre, qui sera inconsolable et qui va pleurer lorsque vous allez l'allonger, ça doit vous faire dire peut-être que l'oreille lui travaille. Et puis, plus l'âge verbal arrive et plus l'enfant va vous dire j'ai mal à l'oreille, tout simplement. Voilà. Et donc là, on localise, c'est bien plus simple pour nous les médecins.
Rapidement, comment ça se traite? En combien de temps on guérit?
Alors, les antibiotiques ne sont pas automatiques. Il faut traiter d'abord le nez. Dans l'immense majorité des cas, avant 2-3 ans, il faudra probablement des antibiotiques. Mais elles guérissent spontanément et on a une tendance à surtraiter les otites. Il faut traiter la douleur, désencombrer le nez, donc du lavage au sérum physiologique, et puis attendre que ça passe. Si les symptômes persistent, si l'enfant est hyper douloureux, si la fièvre persiste au-delà de 3 jours, eh bien là, vous devez consulter et le médecin vous donnera des antibiotiques.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. On sent que l'otite, vous envoyez beaucoup en consultation.
Eh oui, c'est la période.
Merci. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h. Et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. Alors n'hésitez pas et restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette ultime séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on a une question d'Anaëlle. On l'écoute.
Justement, on a un fils de 13 ans et mon mari et moi, on le soupçonne de de regarder de temps en temps des sites à caractère pornographique. Mon mari a l'air de dire que c'est tout à fait naturel à son âge d'avoir ce type de curiosité. Par contre, pour ma part, ça me chiffonne un peu. Déjà d'une part, parce que je trouve qu'il est un petit peu jeune. Et d'autre part, ça lui donne une vision de la sexualité réductrice, quoi. C'est de la performance, c'est un peu... aussi, on va dire, de la boucherie, entre guillemets. Il n'y a pas d'amour, c'est des acteurs. Est-ce qu'il faut qu'on laisse faire avec mon mari ou... Qu'est-ce que vous préconisez, vous, Catherine ?
Catherine, vous voyez, elle s'adresse à vous directement, Anaëlle. Il a 13 ans, son garçon. Est-ce que elle pense... Est-ce que c'est possible qu'il regarde déjà du porno à 13 ans ?
Oh oui, malheureusement, déjà à 13 ans et bien avant maintenant. Les smartphones offrent tellement la possibilité d'avoir accès au net en permanence. Il est difficile pour les parents de pouvoir contrôler cela. Et évidemment que la première préoccupation, c'est tout ce qui raconte, d'abord tout ce qui raconte les interdits, dont la sexualité, les interdits parce que c'est, on n'est pas encore un adulte, on n'est pas encore complètement mature. Et aller voir ce qui se passe du côté du monde des grands, évidemment, c'est une interrogation majeure.
Jimmy ?
Vous dites que c'est difficile pour les parents de contrôler, mais justement, comment est-ce qu'on contrôle ? Est-ce que... Le contrôle parental dont elle parle pourrait être un début. On ne parle pas de l'œil de Moscou. Un contrôle parental, ça me semble peut-être...
C'est la base quand même.
La base, Moscou, non ?
Oui, alors je crois que de toute façon, il faut l'expliquer. Il faut pouvoir dire, parce que de toute façon, à l'école, l'enfant, il sera confronté. Parce que, inévitablement, il y a toujours les gros durs qui proposent à ceux qui voudraient en faire l'impasse de le regarder, sans quoi ils ne sont pas dignes de faire partie du groupe de leur père, en quelque sorte. Donc, de toute façon, ils y seront confrontés. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir parler de cela à la maison, pouvoir dire qu'il y a cela qui circule, que peut-être que ça l'intéresse. Et effectivement, c'est un temps de préoccupation, c'est un temps de curiosité. Le papa de ce jeune homme a raison quand il dit que c'est normal, cette curiosité. Par contre, est-ce que c'est normal de regarder cela pour se construire sexuellement ? Non. Et évidemment que vous comprenez bien que c'est majoritairement les garçons qui regardent la pornographie, tout simplement parce que lorsqu'il va être question un jour de faire l'amour, le garçon en général, quand bien même nous revendiquons l'équité homme-femme, la réalité reste que ce sont les garçons qui agissent. Mmh. Et ce sont les garçons qui vont pénétrer, et pas les filles qui prennent les pénis des garçons pour les introduire en elles. Ce qui est à tort d'ailleurs, parce que ça peut tout à fait se faire, et ce serait même souhaitable pour les filles elles-mêmes. Le fait est que ce sont les garçons qui le font, et que les garçons ont peur de leurs compétences ou de leur...
Donc ils veulent apprendre la technique, on va dire, c'est ça. Exactement. Mais c'est pas la technique la réelle, hein, on est d'accord.
Et c'est ça le problème, c'est qu'ils vont regarder des choses pour voir comment techniquement ça marche. Et le problème, c'est qu'ils se retrouvent confrontés à des choses qui ne correspondent pas au réel, ni le temps, ni la durée, ni le plaisir, ni l'attitude relationnelle de l'homme et de la femme, et que ça devient un modèle qui est polluant.
Jimmy ?
Du coup, on ne les engueule pas. Si jamais on les prend en flagrant délit, ce sera contre-productif. On aura tendance envie de lui dire « Mais qu'est-ce que tu faisais là ? Ne fais plus jamais ça !» Alors que mieux vaut désamorcer la situation et leur expliquer que ce n'est pas la vraie vie, que ce sont des acteurs, comme dans un film de super-héros.
Absolument. Je crois que c'est vraiment très important de leur dire « Tiens, si tu regardes ça, c'est que tu as la curiosité d'eux. Donc, chérie, rends-toi compte que ou je dois te dire que ce n'est pas la réalité, etc. » Mais aussi, il y a une autre chose, c'est qu'imaginons un seul instant qu'un enfant rentre dans la chambre à coucher des parents à un moment où ils sont en train de faire l'amour et qu'ils surprennent les parents en train de faire l'amour.
Ça peut arriver. Hein.
Cette scène est pornographique. Donc, ce que je veux dire est pornographique dans le sens où c'est une vision crue d'une situation et l'enfant a la curiosité de savoir ce qui se passe. Donc, le but, c'est pas que les corps nus ou l'accouplement soient quelque chose qui est répréhensible, bien évidemment que non. C'est la réduction relationnelle, la réduction de la pulsion à la simple utilisation du corps de l'autre. Et c'est cela qu'il faut pouvoir dire à l'enfant pour l'aider à comprendre qu'il n'a pas de performance à jouer. Sinon, évidemment, il sera échec et mat face à ce qu'il regarde, puisque ça ne correspond pas à la réalité. Il n'y a pas une heure ou une heure et demie de pénétration, pas plus que des multiples éjaculations et une érection qui perdure autant de temps. Donc ça, ce n'est pas le réel, et encore moins les relations entre hommes et femmes telles qu'elles sont évoqué.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, notre grand dossier sera consacré au cancer du sein. À la veille du lancement de l'opération Octobre Rose, nous ferons le point sur le dépistage de cette maladie. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
Aujourd'hui, regardez comme Stéphane est bien habillé.
Et vous donc,
non, mais l'élégance. Oh. Faut dire, c'est une émission sur l'élégance.
C'est vrai.
Sapé comme jamais.
Ah, vous connaissez Maître Gims?
Ah, bah, bien sûr.
Attends, on va en parler.
C'est, il est vivant, donc je
oui,
vous le laisse.
Oui, c'est vrai.
Moi, je fais que les morts.
Oui, c'est vrai.
Enfin, les gens de l'histoire.
Mais sapé comme jamais aussi.
Ah, bah, la reine Marie-Antoinette, une bien icône sûr. De la mode.
Ah, oui.
Eh oui, vous n'avez jamais vu le film de Sophie Coppola?
Ah, bah, je l'ai vu plus de trois fois.
Ah, oui, vous n'avez pas tout compris.
Non, la première fois,
et puis ensuite, évidemment, il y a eu.
Il y a eu Stéphane Mao Tse-tung.
Mao Tse-tung.
Forcément, quand on pense mode, on pense Mao. Normalement, on pense Col Mao.
On va vous révéler des choses incroyable. Que vous n'avez jamais entendues sur Mao.
Non.
Il avait certes une veste Mao, un col Mao, mais il était très sale.
Il était même dégueulasse, on peut le dire, Mélanie.
Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente émission, je suis sûre qu'elle sera. Moi, je vais écouter, en tout cas, et vous aussi, surtout. Je vous le conseille, restez sur Europe 1.